Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Avant ce départ de Zoffiné, j'ai aperçu Pogacar au Grand Prix de Monaco de Formule 1.
Il l'a fait, Tadej Pogacar. Hier, il n'avait pas apprécié d'arriver à 3. Il avait perdu ce sprint. Il prend sa revanche tout seul, comme un grand Tadej Pogacar.
Je l'ai aperçu dans les espaces vifs à Monte-Carlo.
Oh non, mais il n'est vraiment pas une grosse tête.
Pogacar vient de remporter son 6e succès d'étape sur ce Giro. Il est là en train de boire un coup alors que les autres ne sont même pas arrivés. Ils sont à plus de 2 minutes.
23-0, c'est la piquette, Jack.
I had to hurry up to see the finish just of Ushka on Tour de Suisse, so it was just in time. So.
Alors moi je te dis tout net, t'as pris le melon, Vincent. Et s'il y a une mauvaise ambiance ici, c'est ta faute.
Il lève les bras, Tadej Pogacar, 98e victoire en carrière pour Tadej Pogacar, impérial encore aujourd'hui.
Je l'ai vu dans l'étape, avec son maillot de leader sur le dos, il avait son coéquipier qui roulait, il est descendu à la voiture chercher des bidons pour les apporter à son coéquipier. Non mais il charrie.
Tu sais pas jouer, Jack, t'es mauvais.
Et oui, il est seul au monde. Et il aime le montrer. Tadej Pogacar sera encore le grandissime favori du Tour de France qui débute dans 2 semaines. Évidemment, c'est une compétition à suivre en direct en intégralité sur RMC. Après sa démonstration sur le critérium du Dauphiné, il y a une semaine dans ce studio, vous l'avez entendu dans la production, Marc Madiot. Marc, mettez en garde Tadej Pogacar sur son attitude un peu désinvolte, sa facilité déconcertante et sa volonté de la montrer, cette facilité à qui veut l'avoir, notamment ses adversaires. Philippe Gilbert, le champion du monde 2012, tire également, cher Marc et cher Gégé, la sonnette d'alarme au micro de nos confrères en Belgique.
Ce que j'ai peur pour Pogacar, c'est que il va commencer à énerver. Il énerve déjà parce qu'il écrase, il domine, il se permet, on va dire, d'aller battre les meilleurs sur les classiques, de battre les meilleurs coureurs sur les courses à étapes, évidemment. Donc, il commence à déranger dans le milieu. Ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une réaction négative. Il faut jamais oublier de rester humble et de respecter ses adversaires.
Alors la musique qui fout les jetons, mais j'ai cette question. Tadej Pogacar, manque-t-il d'humilité? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Marc Madiot?
Je pense qu'il s'est laissé aller pendant le Dauphiné, donc il doit faire très attention pour le Tour.
Ok, c'est une mise en garde une nouvelle fois. C'est un petit oui, si je comprends bien. Pascal Duprat?
Oui.
Julien Beneteau?
Je pense pas.
Tu ne penses pas. Il y a deux oui, il y a deux non. Alors la goutte de trop pour le champion belge, parce que vous avez entendu Philippe Gilbert, c'est Pogacar qui, durant ce critérium du Dauphiné, avait expliqué qu'il ne visait pas la victoire lors de la dernière étape du Dauphiné pour atteindre le cap des 100 victoires en succès en carrière sur le Tour de France. Et il avait mis son plan à exécution en laissant la victoire finalement au Français Lenny Martinez. Et voici ce qu'avait directement tweeté Philippe Gilbert. À quelques semaines du Tour, Tadej Pogacar commet peut-être la première erreur de sa carrière en manquant d'humilité envers ses adversaires. Fin de citation. Tu commences, Marc Madiot, pourquoi il manque selon toi d'humilité?
Qu'il agisse comme il le fait en termes de prestations de course. Il y a une étape, il s'est un peu relevé dans le final. Il gagne une étape, mais il se relève en disant « j'ai commencé ma récupération à 2 kilomètres de l'arrivée ». Qu'il le fasse, c'est une chose, et qu'il le dise, c'est plus ennuyeux. Qu'il le fasse et qu'il gère sa récupération dans la fin de l'étape parce qu'il a étape gagnée et classement général assuré, ça me choque pas, c'est pas un problème. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il le dise. Ça, c'est plus ennuyeux. Et le coup du ravito avant la dernière ascension par rapport à son coéquipier, sans demander à son coéquipier de ralentir, d'aller chercher le bidon, de se mettre en scène un petit peu en utilisant la présence de la caméra de télévision. Il sait qu'elle est là, la télé. Il sait qu'il va être filmé. Ensuite, il remonte tel un TGV le long de ses concurrents avant d'attaquer la dernière montée. Il y a plusieurs choses à percevoir là-dedans. Il y a le fait, les gars, vous voyez, je me balade, je vais vous mettre minable. Et puis il y a aussi le côté vous voyez, vous n'allez pas pouvoir jouer avec moi.
Mais oui.
Donc c'est qu'il le fasse au Dauphiné, il a bien fait de le faire pendant le Dauphiné, il a assouvi ses petites passions, mais il fera surtout pas ça dans le Tour de France, et je pense que son staff autour de lui l'a certainement déjà prévenu de l'attitude qu'il devrait avoir. Pour moi, le Tour de France qui arrive, pour Pogacar, c'est le tour de tous les dangers. Les choses paraissent tellement simples, tellement assurées, tellement certaines d'être accomplies, et tellement sûres d'être gagnées, que Le principal ennemi de Pogacar sur le Tour, ce sera lui-même. Lui-même dans ses attitudes, lui-même dans son évolution de course, et lui-même qui peut être débordé par le déroulé de la course. Parce que le Tour, on le sait, c'est la plus grande course du monde. C'est la course où tout le monde est sous tension, sous pression, du premier au dernier kilomètre. Et la première semaine de course pour Pogacar peut être celle de tous les dangers. Moi, voilà un petit peu ce que je dirais à Tadej si j'étais son staff.
De tous les dangers, je reviendrai te voir, parce qu'on imagine que là, il peut basculer dans la gloire. Et dans, on va dire, l'un des plus grands cyclistes de tous les temps. Mais attention, parce que ça peut se retourner contre lui. Et d'ailleurs, Philippe Gilbert parlait du cas Christopher Froome. Il prenait son exemple en disant, regardez, Christopher Froome, quand il débarque, il est frais, tout le monde l'adore, c'est génial. Et il finit malheureusement avec des jets d'urine dans l'école. Et il ne voudrait pas que ça se produise également pour Tadej Pogacar. Mais je reviens là-dessus, parce que Simon, je te voyais réagir au propos de Marc.
Non, j'ai pas compris pourquoi ce serait plus grave de faire ça au Tour de France que sur le
parce que la pression médiatique n'est pas la même. Le Dauphiné, on est entre cyclistes.
De ce que je crois connaître de cet oiseau, je vois pas pourquoi s'il le fait au Dauphiné, il s'empêcherait de le faire au Tour de France.
Nous verrons bien,
tu as raison. Mais foutez la paix à Pogacar. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, fichez-lui la paix. Vous avez qu'à rouler plus vite, pédaler plus fort, grimper les cols.
Attention à ce que tu dis.
Eh oui, mon cher Marc, mais bon, je suis désolé. Évidemment, une telle domination, ça agace. On lui cherche.
Et justement, parce que sa domination, elle agace. On lui cherche qu'il soit prudent dans ses attitudes.
Et bientôt, on va dire qu'il met des jeans délavés au lieu de mettre des. Bon, quel est le problème avec Pogacar? Fichez-lui la paix. Il est sympa. Il a toujours un mot pour aller féliciter.
Attention, tu dis, il est sympa. Il est pas sympa avec tout le monde.
Féliciter les adversaires, il parle aux médias quand ça va pas, il félicite les adversaires, il se cache pas, il est pas hautain. Marc, moi je regarde le cyclisme depuis que je suis petit, on en a vu des champions hautains, des champions qui donnent rien, ni au public ni à leurs adversaires. Je le trouve, même à ce niveau-là, je le trouve extraordinaire, alors que parfois en course il lâche le guidon, je sais pas, il montre de la facilité, que ça puisse paraître pour passer pour de l'arrogance auprès de ses adversaires qui eux sont à la limite, qui sont capot ouvert. Je comprends que ça puisse agacer, mais j'ai pas l'impression, je le ressens pas comme un manque de respect pour ses adversaires et pour une attitude irrespectueuse. Moi justement, je trouve qu'il arrive à conserver une forme d'humilité que beaucoup d'autres, à cette altitude-là et avec le volume de succès qu'il a déjà engrangé, ne montraient pas ou ne montreraient pas.
Avant de donner le guidon à Pascal, Marc, tu as dit il n'est pas sympa avec tout le monde ?
Il n'est pas réputé être sympa avec tout le monde dans le peloton.
C'est la question que je voulais poser à Marc.
À qui ne dit même pas bonjour. Mais après, tout le monde ne dit pas bonjour à tout le monde dans le peloton. Hein, c'est juste un constat. Moi, je dis attention. Voilà, je dis attention, attention.
Marc, pour toi, il manque d'humilité ?
Pascal.
Oui. Quand, par exemple, c'est à Combloux, je crois, pendant le Dauphiné, il se dit « je me suis dépêché d'arriver parce que j'ai ma copine que je veux voir à la télé ». Franchement, tu te mets à la place de ses concurrents, même s'ils dominent, même si on doit respecter le fait qu'ils dominent, tu te mets à la place de ses concurrents, t'as envie de lui jeter le vélo sur la tête quand t'arrives avec tes
oui, bon.
Donc il pourrait faire l'économie de ça. Et après, moi j'ai presque envie de vous dire, mais encore une fois, c'est toujours un brin provocateur, est-ce qu'il perd pas de sa lucidité, le garçon?
Non, okay,
parce que moi, il y a quand même pour ma part il y aura toujours un point d'interrogation. Je suis vraiment désolé, et ça jusqu'à sa fin de carrière, parce que j'ai l'impression que c'est extraordinaire ce qu'il est en train d'accomplir. La domination qu'il exerce sur le peloton est extraordinaire contre des adversaires qui sont extrêmement préparés, tout comme lui. Je veux bien que physiologiquement, il soit un tout petit peu meilleur, mais voilà, ça me...
Non, mais là, on s'écarte du débat.
Voilà. Attention aussi, parce que si jamais ça vient être révélé, il va se faire défoncer, ses collègues auront plutôt tendance à le lâcher.
Ce sera normal. On se dit, est-ce qu'il manque d'humilité? Moi, pour l'instant, je trouve pas qu'il manque d'humilité. Je trouve qu'il cherche encore plus à intimider ses adversaires. Pour moi, c'est de l'intimidation, il est le patron, il est le plus fort, et il le montre encore. Je suis d'accord avec Marc sur la fin de son propos sur au Tour de France, comment il va falloir faire. Je pense qu'il a peur. S'il a une crainte, Et il l'a dit tout de suite après une fois qu'il avait gagné Dauphiné, c'est sur son équipe. Il a dit heureusement qu'au Tour de France, il aura un des frères Yates avec lui et je sais plus lequel. Il y a un autre
qui pourra l'aider
un peu plus en montagne. Parce que je pense que le seul adversaire, c'est l'équipe
Julien
qui est revenu un peu en force, en nombre. Vingegaard qui est pas encore au niveau espéré, mais il a 15 jours, 3 semaines, voire pour être en forme. Donc je pense que c'est le seul truc où il se dit voilà, si et comme il l'a perdu il y a 2 ou 3 ans quand l'équipe de la Jumbo l'avait fait exploser. C'est là qu'il a un petit doute. Et effectivement, ce Tour de France va le faire passer dans une autre catégorie. S'il gagne, ce sera le 4e, le Tour. Plus tout ce qu'il gagne, il sera vraiment dans le viseur des Merckx et des Hinault, avec une 5e victoire en ligne de mire. Donc il a vraiment, pour marquer l'histoire de son sport, ce Tour de France-là. Voilà, pour l'instant, moi je trouve pas qu'il manque d'humilité, je trouve qu'il intimide les adversaires.
Ok,
Julien. Si jamais tu avais joué, je pense que tu l'as fait. Tu as joué contre Federer. Tu as
certainement. Il l'a battu même à Bercy.
Tu as certainement quelques fois perdu. Si Federer, donc le champion que c'était, mais aussi le monstre de fair play que c'était, si Federer, il disait alors qu'il gagne 2-0 dans un tournoi du Grand Chelem contre toi, il disait écoute, je te laisse le 3e set, je récupère un peu, puis après je te gagne le 4e. Ça te ferait plaisir? Il dirait oui, il marque sa supériorité. Putain, oui, vraiment, c'est parce que là, il est en train de. Ouais. T'aurais pas envie de filer la raquette dans la tronche?
Tu as certainement raison. C'est pas. Effectivement, il aurait une image moins sympathique, et c'est ce que dit Marc. Attention, au sein du peloton, voilà, il y a cette domination qui, comment dire. En fait, il est victime de il est victime de son sport, et il est victime de sa force, entre guillemets, victime de son sport, parce que il domine dans un sport où il y aura une suspicion, et ça c'est terrible. Et il est victime de sa force parce qu'il est tellement fort, il est fort partout, le mec, c'est ça qui est incroyable. Et puis, il va gagner Paris-Roubaix et il est capable de déposer tous les meilleurs grimpeurs dans le Ventoux. Donc c'est en étant comme ça, s'il veut être aimé de tout le monde, effectivement, il peut pas se permettre le moindre écart de comportement, de langage, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il a envie d'être aimé de tout le monde? Non.
Et puis, est-ce que Merckx, Hinault, Anquetil n'étaient pas des carnassiers qui eux aussi cherchaient à impressionner et à assommer d'abord psychologiquement leurs adversaires pour, je veux dire, il y a une dimension psychologique, il y a une dimension d'intimidation dans la course cycliste.
Oui, il y a une dimension psychologique qui est là.
Ça joue aussi. Je veux dire, c'est juste que il fait son métier comme il veut, pour dominer. Ça se joue à la pédale, mais
c'est pas tellement
dans
son attitude pendant la course qui peut être son problème.
Ma copine à la télé, je me dépêche d'arriver parce que je veux voir ma copine à la télé. C'est pas trop de l'intimidation. Ah, c'est un peu d'humour.
Ces attitudes en course, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. À part moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est l'histoire du ravito. Mais à la limite, qu'il s'en serve pour intimider la concurrence, c'est pas grave. Mais c'est l'accumulation.
S'il s'amuse à faire ça au Tour de France.
Ouais. Plantons le décor. On est à mi-Tour de France. Il a 3-4 minutes d'avance. Il est en situation de se balader pour le reste du tour et il commence à enchaîner ses petites incartades.
C'est là où il se
C'est là où il va se foutre dans un bordel monstre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Faut avoir le contexte du tour. Dans le tour, les médias sont focalisés sur le match, sur la rivalité, sur l'incertitude de la course. Mais imaginons que le tour, au bout de 10 jours, est plié.
Ouais.
Potentiellement, le tour est plié, il a 3-4 minutes d'avance. Ah mais là, un autre tour commence pour lui. C'est pas le tour sur le vélo qui va décider. C'est tout ce qui va se passer autour, et la sphère du public et la sphère médiatique. Parce que les médias, qu'est-ce qu'ils vont avoir à se mettre sous la dent pendant la moitié du Tour de France s'il a course gagnée?
Ouais.
Ils vont aller chercher les poux dans la tête, ici ou là, sur différents sujets. Alors ça peut être le dopage, mais ça peut aussi être sur son attitude, sur les petites phrases ou les petits mots qu'il va pouvoir lâcher ici ou là. Et le danger pour lui, sur le tour, s'il est en situation de se balader sur le tour, le danger se situe à ce niveau-là.
Marc, t'as tout à fait raison, mais je pense qu'en fait, à l'échelle de la saison, on en est déjà là.
Oui.
C'est-à-dire qu'il gagne tellement.
Tant que la course ne va pas être décantée, et tant qu'il va pas être
surdominateur,
va se polariser sur la course.
Ce que je te dis, c'est qu'à l'échelle de la saison, il domine tellement outrageusement qu'on en est plus à parler vélo, on en est à se dire évidemment. Ah, regardez ce qu'il fait, regardez et machin. Et juste pour avant de te laisser la main, Julien, je trouve que c'est très injuste de le comparer à Chris Froome. Chris Froome, il ne donnait rien à personne. Il était, je veux dire, il avait une attitude chétive, il était renfermé sur lui-même, il avait peur du micro, j'ai pas l'impression qu'il partageait beaucoup, ni avec ses adversaires, ni avec ses coéquipiers. Je veux dire, il gagnait, mais il n'exprimait rien, aucune émotion, et il ne dégageait rien auprès du grand public.
Partageait même pas le bidon.
Pogacar, je trouve que voilà, il a cette candeur, évidemment. Peut-être que on le voit un peu trop innocent, un peu trop gentil, comme vous voulez, je sais pas. Mais au moins, il y a quand même un partage et il y a autre chose qu'un coup de pédale et le regard froid à l'arrivée quand il gagne.
Julien, tu voulais réagir.
Non, je voulais demander à Marc justement si le parcours du Tour pouvait proposer cette situation où au bout de 9-10 jours, il a 2 ou 3 minutes d'avance.
On ne sait pas comment va se dérouler le départ de Tour de France. Hein. La météo joue toujours un rôle déterminant. Est-ce qu'on sera sous la canicule? Est-ce qu'on aura éventuellement du vent du côté du nord? Est-ce qu'il y aura des arrivées délicates? Il y a quand même des passages à risque en termes de chute. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Potentiellement, aujourd'hui, au vu du niveau de compétitivité qu'il a, normalement, il devrait pouvoir plier assez vite et assez facilement le tour. Il va pas mettre sa concurrence en situation de se mettre à espérer. Moi, je suis à sa place, j'essaie de broyer tout le monde le plus vite possible pour être tranquille. Pour être tranquille, on sait jamais ce qui peut se passer. Après, ce sera sa propre gestion de sa propre personne. Et c'est là où il peut se mettre en danger à travers des petits mots ou des petites attitudes qui peuvent se retourner contre lui. C'est tout.
Toi, t'es coureur. Évidemment, tu vas pas nous dévoiler tous les secrets, mais quand tu entends, j'imagine qu'il parle vélo, forcément, t'es dans le bus avec eux. Est-ce qu'il parle de Pogacar? Est-ce que tu sens qu'il l'aime bien? Est-ce que tu sens que...
Il est pas forcément... Il est pas haï, mais il est pas aimé non plus. Il y a une certaine neutralité. Il y a des coureurs qui sont plus sympas que lui ou qui dégagent plus de sympathie que lui. Ma propre perception que j'ai du peloton, je vais vous surprendre, mais Vingegaard paraît plus sympa. Alors que le retour et l'image qu'on a de...
Jean Pinot aussi.
Franchement, Vingegaard, vous pouvez le croiser dans un hôtel, dans un ascenseur, un petit mot gentil, un bonjour, un sourire. Pogacar, c'est pas forcément le cas. Quand il est face à une caméra et quand il est dans l'action de course, il sait utiliser ce qui se passe autour de lui, et il a raison, c'est son job. Mais l'impression qu'il dégage, on a tous, si on regarde vu de loin, on a l'impression, le gentil c'est Pogacar, et le méchant c'est Vingegaard. C'est pas forcément la vérité. Et moi j'ai été dans le peloton il y a quelques années passées, et à une époque, avec les Italiens, avec Moser et Saroni, on disait, Moser c'est le gentil et Saroni c'est le méchant. Ben, en fait, dans la réalité, c'était l'inverse. Donc vous voyez, donc faut toujours se méfier et être prudent avec le renvoi d'image qu'on a des attitudes des uns et des autres.
Ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même image.
Et là, ils n'ont pas du tout la même image. Et moi, je suis un peu défenseur
parce que justement, Vingegaard, très froid.
Oui, justement face aux caméras, Vingegaard
C'est quelqu'un de. Pour moi, Vingegaard, c'est quelqu'un de très simple, très simple.
Oui, il pédale dans sa cabane au Danemark autour.
Et puis il a pas cette facilité de Pogacar sur les classiques, à se mettre en scène et à véhiculer une autre attitude.
Imagine Marc, c'est ton coureur, Pogacar, tu attaques un Tour de France, un énième Tour de France avec lui, tu vois ces petits trucs lors du Critérium du Dauphiné.
Ouais.
Quel est le discours?
Je bétonne autour de lui pour ne pas me mettre dans ces situations-là. Je parle pas de la course. La course restera la course. Et le déroulé de la course est une chose. Mais tout ce qui est en périphérie de la course, sur le tour, ça prend une importance déterminante. Bien sûr. Et moi, je suis patron de Pogacar. Je maîtriserai la com et je mettrai en permanence quelqu'un à côté de lui.
Yannick Bru, donc. À l'instar de Yannick Bru à Bordeaux, donc.
Hein, le débat de 9h.
Ne reviens pas là-dessus.
Est-ce que tu lui remontes les bretelles ou est-ce que tu lui fais comprendre comment ça se passe,
Marc,
concrètement?
Tu pourrais nous laisser parler, s'il te plaît?
Vas-y, réponds.
Non, vas-y, Marc.
Non, mais moi j'essaierai d'anticiper la situation avec lui dans les entretiens qu'on peut avoir et dans la conversation quotidienne qu'on peut avoir avec le coureur. Je dirais, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça, regarde, observe. Enfin, il y a tout. Moi, je vais reprendre un truc comme nous avait expliqué Cyril Guimard à l'époque où j'étais coureur. Il n'y avait pas les moyens des médias d'aujourd'hui, mais il y avait quand même un truc. Le premier truc qu'il nous disait, c'était « Regardez toujours la carte d'accréditation de la personne qui est en face de vous. suivant qui il est, suivant pour quel média il intervient, ça doit vous orienter dans ce que vous allez dire et dans l'attitude et dans la prudence que vous devrez avoir. Ben moi, c'est ce que je dirais aujourd'hui à Pogacar. Regarde bien les accréditations des uns et des autres qui sont en face de toi quand tu es dans la zone presse. Parce que sur le Tour de France, on n'a pas affaire qu'à une presse de spécialistes du vélo,
bien sûr.
Et de gens qu'on connaît au quotidien sur toutes les courses. Ouais. Sur le Tour de France, on a...
Des non-initiés.
Pas des non-initiés, mais des gens qui sont là pour couvrir un événement, parce que le Tour est un événement. Mais une fois le Tour de France terminé, ils iront couvrir un autre événement. Et avant le Tour de France, ils ont couvert Wimbledon ou un...
Donc les questions sont différentes.
Et donc les attentes et les perceptions sont forcément différentes. Et moi, c'est là-dessus que j'insisterais auprès de mon coureur si j'avais un coureur comme Pogacar dans mes effectifs. Ce que je n'ai pas, ce que j'aimerais avoir.
Bah, j'imagine. Stéphane nous appelle au 32-16. On te le souhaite. Stéphane, bonjour.
Salut à tous, vous allez bien?
Bonjour. On va très bien, Stéphane. Merci de ta fidélité. Tu penses quoi de ce débat? Alors, Tadej Pogacar, est-ce que pour toi, quand tu le vois comme ça à la télé, est-ce qu'il manque un peu d'humilité?
Non. Franchement, je pense qu'il manque pas d'humilité. Je pense qu'il est de sa génération. Et Dieu sait que moi, je suis plutôt un supporter de Vingy, que j'aime beaucoup. Mais on peut pas comparer un mec qui vient du Nord avec une éducation tout à fait différente, avec une approche des gens qui, dès la petite enfance, doit être hyper respectueuse, à un gars qui finalement est très proche. Il est entre grand coureur et aussi par moments il réagit un peu comme un influenceur. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de faire des images et d'avoir des propos qui choquent, qui sont marquants. Et attention, ça plaît énormément à certains jeunes qui regardent. Alors, je parle pas des fanatiques du vélo ou autre, mais par moments, je trouve qu'il a des réactions d'influenceur. Après, manque d'humilité, non, parce que franchement... Il a un caractère presque gentil, ça a été dit. Enfin, des mecs comme Anquetil, Merckx ou Hinault, qui étaient capables de descendre leur vélo pour casser la gueule à un mec. Enfin, aujourd'hui, si Pogacar faisait ça, qu'est-ce qu'on dirait, quoi? On serait là, non, mais quelle honte, et tout. Non, on a changé d'époque. Je pense que c'est un coureur de notre époque, qui joue beaucoup des médias, qui est pas bête, qui joue énormément de l'image qu'il va donner au moment où il va donner. Et comme beaucoup de jeunes de cette époque, à un moment donné, il peut se carboniser un peu les ailes par des comportements qui ne seront pas super bons. Et puis, il va avoir un comité manager ou un conseiller en com qui va lui dire « Non, là, franchement, tu ne peux pas faire ça, tu vas paumer des contrats, etc. » Après, c'est un super coureur et je pense qu'il a le caractère qui va avec le niveau de ses mecs. C'est-à-dire que, il s'impose. Il s'impose physiquement, il montre qu'il est le plus fort. Et oui, vous l'avez dit en tennis, mais moi je me souviens de matchs où Federer, de temps en temps, ça lui arrivait de lâcher un set pour mettre une roue de bicyclette au quatrième.
Non, mais c'est pas pour autant qu'il était condescendant et qu'il ne respectait pas son adversaire.
Non, il n'était pas condescendant parce que c'est pareil, Federer c'était un Suisse, c'est pas la même éducation. C'était pas. Mais regardez Wawrinka qui avait une éducation tout à fait différente. Il y a des caractères qui sont pas les mêmes, mais alors attention, hein, je dis pas que ça me plaît ou que ça me plaît pas, mais ça me choque pas plus que ça dans l'époque actuelle, quoi.
Ok, bon bah c'est parfait.
C'est pas toi qui le vis, quoi, en fait.
Et aussi, peut-être que les adversaires.
Ouais, Vingegaard, ça doit pas lui faire trop plaisir, j'imagine, quoi.
Merci Stéphane d'avoir été avec nous au 32-16. C'était un excellent débat, en tout cas, quoi, l'on voulait avoir à deux semaines du Tour de France. On est très pressé d'y être. J'imagine que toi aussi, mais toi, tu vas y participer. Nous, pour le couvrir, ce Tour de France que vous suivrez évidemment tout au long des journées sur RMC.